Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, auditeur de Radio Silence. En ce début d'année 2010 qui s'annonce, faut quand même le reconnaître, plutôt noir, je voudrais vous adresser cette carte postale du sud de la France, d'un ciel bleu, de petits nuages blancs, d'un soleil qui réchauffe l'atmosphère froide de l'hiver, de grands oiseaux blancs qui tournoient au-dessus des prairies. Ceci pour vous réchauffer donc le moral. Ma chronique numéro 22 d'aujourd'hui a pour titre général Silence, on a servi les peuples. Dans l'actualité économique générale, j'ai noté pauvreté générale oblige, une sécheresse qui serait à l'origine d'un déficit énorme de légumes en Inde et qui provoquerait des hausses exorbitantes de 40 voire 110% des prix comme sur les pommes de terre. Publius Caius Caesar dénonçait déjà dans le Bellum Gallicum le même problème d'une hausse de 20% des prix du blé entre les Romains lors du siège fermé de l'extérieur par l'armée gauloise de secours des légions romaines assiégeant elles-mêmes Alésia. Le problème n'est donc pas neuf. Je formule donc la proposition suivante qui appuie celle du pape. Les prix doivent être encadrés, voire même régulés ou carrément fixés. Une hausse de prix est un crime. Le rationnement est de loin préférable sur les produits de première nécessité. Ce rationnement peut en être compensé par la liberté de stocker individuellement, à son gré et selon ses moyens, les produits en période de vache grasse, pour servir dans les périodes de vaches maigres. De toute façon, aux Indes, la vache est toujours sacrée. Le rationnement ne portant alors que sur les nouveaux achats, ce qui devrait limiter le marché noir, danger toujours menaçant en cas de rationnement. Mais tout le monde doit pouvoir se nourrir le moins mal possible en période difficile, sans spéculation ni abus des plus riches. Les humains sont tous frères, dit Jésus-Christ. Et de toute façon, ce que donne la création appartient à tous. Mon conseil patrimonial du jour, je vous confirme fortement, vous en comprendrez mieux les raisons au vu de ce qui va suivre, qu'il faut éviter tous les fonds communs de placement, les FCP, offerts par vos banques. Celles-ci vantent l'orientation et le contenu est souvent masqué malheureusement. Vous investissez souvent dans des FCP dits nourriciers car ne servant qu'à amener votre épargne à d'autres FCP, ce que vous ne découvrez qu'après coup. Votre épargne perd la plupart du temps de vue votre souci, pour ne plus servir qu'à solutionner celui du refinancement de toutes ces banques par le biais de leur fonds commun de créances dont nous allons parler ensuite. Il y a encore des fonds communs de placement et des SICAV corrects, mais il faut consulter un vrai conseiller financier indépendant comme moi-même avant tout. Mon histoire de la monnaie, chapitre numéro 22, a pour titre L'anti-monnaie ou le summum du détournement de l'art bancaire. Nous avons connu, comme je l'ai écrit précédemment déjà, plusieurs étapes dans l'évolution de la monnaie. Depuis 3200 ans, ce fut la monnaie marchandise, puis durant 3 siècles et demi derniers, la concurrence entre celle-ci et la monnaie papier, reconnaissance de dette. Cette dernière a fini, après bien des péripéties, par chasser la première, transformant les pièces de monnaie en simples jetons sans valeur. D'émission apparaissant plus aisée, la monnaie papier fut cependant, depuis 50 ans, progressivement supplantée par la monnaie crédit, troisième phase. Au passage, les vieux concepts encore en vigueur dans les années 70 de monnaie et de quasi-monnaie, définissant les dépôts en banque toujours prêts à se transformer en monnaie, ont été rangés au placard. La quasi-monnaie a fait un coup d'État. Elle est devenue calife à la place du calife, monnaie à la place de la monnaie. Seulement voilà, le Saint Graal, la pierre philosophale de l'émission monétaire illimitée, n'était toujours pas découvert car la pyramide de la monnaie crédit avait une base. Alors, bien sûr, au fil des 5 dernières années, et singulièrement depuis 29 ans, l'idée géniale a consisté dans la transformation de la lourde pyramide en toupie, laquelle fut progressivement mise en mouvement. L'accélération a fini par pousser le régime du moteur au maximum, risquant la rupture avec une vitesse de circulation de la monnaie de 44 fois. La pyramide inversée, devenue toupie bancaire, tournant à un rythme effarant, révélant la crise, a fini par imposer une base immense et lourde sur une pointe monétaire étriquée qui laissait entrevoir, sans avoir besoin pour cela de sortir de Saint-Cyr, une très proche chute à grand fracas de la toupie devenue folle dès lors que, faute de carburant, elle ralentirait. La grosse astuce a consisté l'année dernière, en satanique 2008, a présenté aux peuples occidentaux et du reste du monde cette rupture comme effective, sous apparence d'une crise économique inventée de toutes pièces. Bien sûr, l'Organisation mondiale a anticipé sur l'événement de manière à précéder de quelques années la dite rupture du système quasi-monétaire inévitable, prévisible et prévu de longue date, qui aurait probablement engendré une vraie crise dans le foutoir actuel. S'étant ainsi donné du temps au temps, selon la formule célèbre d'un de nos hommes politiques, le système bancaire a ordonné aux chefs d'État d'enclencher la phase 4 de l'évolution quasi-monétaire. Désormais, depuis 16 mois, l'anti-monnaie succède à la monnaie crédit dont elle prolonge la vie. La monnaie est morte, vive la monnaie. On notera qu'aucune des précédentes formes monétaires n'est totalement abandonnée, car il faut d'une part laisser au peuple le temps de s'acclimater à la nouvelle formule, d'autre part, les anciennes formes servent de berceau à la nouvelle. Une sorte de parthénogenèse monétaire, en quelque sorte, qui prolonge une gestation de 3500 ans avant l'accouchement des temps nouveaux bénis par Satan à l'aurore du XXIe siècle. L'antimonnaie, c'est la pierre philosophale, l'aboutissement des travaux alchimistes bancaires multiséculaires. C'est le moyen rêvé par tant de dirigeants bancaires de la transmutation automatique d'autant de monnaies qu'ils veulent grâce à l'art bancaire porté à son summum de déviance. Les banquiers droguent ainsi toute l'économie mondiale, européenne et donc française, avec leur monnaie crédit, transmutée en anti-monnaie, laquelle refusionne en quasi-monnaie, générant de nouveau de la monnaie crédit en expansion illimitée. Cela a commencé, nous dit le bulletin trimestriel de la Banque de France de 1997, par l'introduction de la titrisation dans le contexte institutionnel français par la loi du 26 décembre 1988, complétée par le décret du 9 mars 1989. Dans ce premier cadre réglementaire, plutôt rigide parce qu'encore timide, les seuls établissements habilités à céder des créances de maturité supérieure à 2 ans seulement furent les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations. Le principe: les créances sont cédées à un fonds commun de créances, FCC, agréé par la Commission des opérations de bourse, COB. Ce FCC n'ayant pas de personnalité morale, il est géré par une société de gestion qui lui fait émettre autant de parts que nécessaire. Cette réglementation première fut modifiée par la loi, encore, du 4 janvier 1993 et son décret d'application du 27 mars suivant. Une précipitation qui en dit long sur la préméditation de l'assouplissement attendu. Dès lors, la COB agit seule et sans consultation de la Banque de France. Les FCC deviennent rechargeables comme des FCP, fonds communs de placement classiques. La nature et les caractéristiques des créances titrisables s'assouplissent. De même, il ne fut plus obligatoire de se garantir contre les risques de défaillance des débiteurs et pour cause, comme nous le verrons plus loin. Depuis cette date également, la titrisation est désormais ouverte à certains agents non bancaires, puisque les compagnies d'assurance sont maintenant autorisées à titriser les créances qu'elles détiennent. Des montages complexes permettent de contourner l'interdiction subsistante aux entreprises de titriser des créances commerciales. La titrisation a donc deux objectifs. Premièrement, alléger le bilan des établissements de crédit d'une partie de leurs créances, refinancées par un nombre limité de FCC, moteur de l'expansion quasi-monétaire actuelle. Deuxièmement, pour un nombre qui ne cessera depuis de croître de FCC, collecter l'épargne pour racheter des créances interbancaires souvent créées pour la circonstance par les banques en manque de drogue anti-monétaire, c'est-à-dire à la veille de la faillite. Par décret du 6 octobre 1997, les FCC, en sus de l'acquisition de bons du Trésor, d'actions de SICAV, de parts de FCP, de titres réglementés, peuvent investir aussi dans des comptes à terme de plus d'un mois, des titres de créances négociables ou même d'autres parts de FCC. Dès lors, les banques peuvent envisager de se refinancer indéfiniment en dehors de tout cadre contraignant comme l'ancienne open market ou le rescompte chez la Banque de France, qualifié dans les années 60 encore d'enfer et même de super-enfer. Le dirigisme politique quantitatif du crédit est désormais contourné. C'est l'éternel problème du bancaire du portage des crédits accordés qui est résolu. Pour faire plus d'argent, il fallait bien sûr pouvoir reprêter aussitôt l'argent inventé la veille et déjà prêté pour 2, 5, 10 ou 20 ans. Faire tourner la toupie bancaire encore plus vite tout en l'agrandissant indéfiniment. Quel pied ! Plus le banquier fait du crédit avec du vent, plus il augmente le flot de ses bénéfices apparents au second, troisième, xème degré. L'infini est à portée de main. Cela a paru tellement ardu, bien que cela soit en fait une escroquerie pure et simple, que tout le monde est resté inconscient. La géniale découverte est passée tout d'abord totalement inaperçue, sauf des rares spécialistes en 86-88. À l'époque, j'ai bondi, mais j'étais le seul. Cette découverte, dans le domaine monétaire, s'apparente à celle des utilités sans valeur aucune, comme celle d'un Einstein dans le domaine atomique. Il eût donc mieux valu se méfier, car après les véritables découvertes des Oppenheimer, Rosenberg et autres Enrico Fermi, avec ses poissons rouges du bassin de la fontaine romaine, il y a eu la bombe atomique, dite A, après transplantation à Alamogordo, USA, des travaux de recherche et de mise au point finaux. Il y a des découvertes que certains feraient mieux de garder pour eux dans tous les domaines. Voici la récapitulation des faits de titrisation. 1989, c'est le début, première année, en cours, un demi-milliard de francs, nombre de fonds communs de créances créés, 1. 1996, 7 ans plus tard, l'encours passe à 87,8 milliards de francs, c'est-à-dire 13,4 milliards d'euros, avec 99 fonds communs de créances. Les catégories de créances passèrent des seules sociétés des bourses françaises à l'ensemble des particuliers du système interbancaire, des collectivités locales, des départements français, des établissements publics, des professions libérales et même une république étrangère, le Brésil. Tiens, tiens. Bref, tout ce que la franc-maçonnerie a depuis longtemps phagocyté. En 96, le Crédit Lyonnais, Paribas, BNP, Caisse des dépôts et consignations, Suez, Crédit Commercial de France, Crédit Mutuel, Crédit Foncier de France, Société Générale, Caisse Nationale de Crédit Agricole, créèrent tous leurs filiales de sociétés de gestion contrôlant tous les FCC. Restant encore modeste, le marché de la titrisation en France était quand même au deuxième rang, derrière le Royaume-Uni en Europe, avec près de 90 milliards de francs. Il était à rapprocher des 6 000 milliards de francs de monnaie crédit en circulation et des 2 000 milliards de dollars qu'atteignait la titrisation aux USA cette même année. En 1996, le Crédit Lyonnais montra l'exemple, le mauvais évidemment, en titrisant pour 58 milliards de francs, faisant bondir l'encours général, alors seulement de 16,8 milliards de francs. Mai 2009, l'encours de la titrisation s'établit à 2828 milliards d'euros, soit une progression de 21 028% sur l'encours de 96, soit 1502% par an. Les sociétés non financières, les administrations publiques, les institutions financières, les institutions financières non monétaires se partagent ce total. Ces chiffres sont à rapprocher des 7600 milliards de monnaie crédit totale française, dont 3720 milliards d'euros rien que pour le territoire français, et des tout petits 75 milliards d'euros de monnaie légale en circulation comme base pointue, et des 1631 milliards d'euros, la base monétaire M3, de monnaie crédit. L'antimonnaie sert donc à fabriquer du cash artificiel destiné à alimenter la machine à monnaie crédit réclamée par tous les agents économiques qui sont drogués à mort, l'État, les collectivités, les entreprises, les professions libérales et même les particuliers bien sûr. Dans la version écrite de ce chapitre, vous trouverez en PDF les graphiques et les croquis que j'ai fait. La titrisation des dettes, c'est ceci. Vous faites un emprunt à votre banque qui crédite votre compte chez elle, à son passif, d'une somme inventée par elle qu'elle ne possède pas en monnaie légale. Votre banque enregistre sa créance, c'est-à-dire votre dette, à son actif. C'est le phénomène très bien étudié par les étudiants de l'Institut technique de banque, très à fond dans les années 60 et depuis un peu moins, appelé « loans make deposit », les crédits font les dépôts. Pour pouvoir augmenter son passif, votre banque était jusqu'ici obligée de respecter un ratio de solvabilité de 8% avec ses fonds propres et de constituer des réserves obligatoires à la Banque de France de 2%, enfin maintenant à la BCE. Elle devait donc augmenter son actif sur son compte ouvert chez la banque des banques, donc elle devait immobiliser plus de monnaie dite centrale en billets ou en compte à la Banque de France. C'était donc un frein qui limitait la pyramide mathématique des crédits possibles et donc limitait le phénomène de création de monnaie crédit et du même coup le risque pour la banque centrale. La partie du croquis haute était branchée directement sur la partie basse du croquis, la base de monnaie légale. Il fallait donc trouver autre chose et ce fut la titrisation des créances, laquelle transforme un actif immobilisé, créance sur vous, en un dépôt tout neuf à son passif, avec en contrepartie un actif en monnaie crédit, préalablement créé d'apparence de cash. D'apparence de cash. C'est cela, l'ingénierie financière, si bien dénoncée en mars 1998 par François Gilles, le numéro 2 du Crédit Lyonnais, dans son livre « L'engrenage du Crédit Lyonnais ». Ce faux cash augmente dans le système interbancaire la capacité de refaire de la monnaie crédit après avoir contourné le frein étatique des réserves obligatoires. Cette insertion de ce qu'il faut bien appeler de l'antimonnaie dans la pyramide inversée permet alors d'agrandir indéfiniment la base de la dite pyramide inversée. C'est un peu comme une recette de cuisine. Jadis, le banquier devait refinancer une partie des crédits accordés à ses frais, ce qui diminuait pour lui la rentabilité nette des agios réclamés à ses débiteurs et limitait l'expansion de monnaie crédit. Désormais, la banque gagne de l'argent, au lieu d'en payer, à travers sa société de gestion qui tire les ficelles de ses marionnettes, les fonds communs de créances, en plus donc du bénéfice attendu du crédit premier accordé sur du vent. En jouant finement, elle maintient alors son ratio structurel sur la base de la pyramide inversée, en ne recourant plus qu'à cette anti-monnaie. La diminution de ses créances, à elle, diminue le blocage officiel des réserves obligatoires. Elle peut alors refaire à nouveau du crédit, des dépôts et de l'anti-monnaie. Il s'agit bien d'une bombe à fusion matière-antimatière. L'explosion contrôlée alimente le surgénérateur monétaire jusqu'au moment où plus rien ne sera contrôlable. La divergence imparable et l'explosion finale hyper récessive du soleil chaud à une naine froide. Évidemment, il y a bien de temps en temps des imbéciles qui en font trop et qui finissent par révéler le poteau rose, comme le malheureux Madoff, simple tache sur le soleil en expansion d'une cinquantaine de milliards de dollars US, sur un océan de feu de 45 millions de milliards de dollars US de dette globale en 2009, en attendant sans doute les milliards de milliards de milliards à venir. Les fous cinglés qui gouvernent le monde ont attrapé le tournis. Bien sûr, des individus se posent des questions, mais la réponse leur échappe, par exemple comme « Mais enfin, où est donc passé mon argent ?» Ils ne savent pas qu'il n'a en fait jamais existé et que tout cela n'est que du vent brûlant, une sorte de plasma de vent solaire à haute énergie, une fusion nucléaire à l'échelle du Soleil qui, après avoir démesurément grossi, se réduira à une naine blanche froide de la dimension d'un ballon de football. Alors on comprend mieux pourquoi de petits nabos prétentieux et malhonnêtes, corrompus jusqu'à la moelle, sont aujourd'hui persuadés d'avoir découvert l'œuf de Colombe, la pierre philosophale. Bref, la solution globale au problème monétaire, avec à la clé la fin de tous les soucis d'équilibrage des comptes. Au total, on ne paye plus rien. La fusion nucléaire monétaire s'alimente toute seule. Seulement voilà, ce n'est pas la fusion, mais l'annihilation, car il ne fusionne pas deux protons, mais un proton et un antiproton. Car les parts des fonds de titrisation ne sont pas de l'actif, mais du passif. Rappelez-vous, ce sont vos dettes qui sont à la base du système, autrement dit, investisseurs dans un fonds commun de placement nourricier d'un autre fonds commun de placement apportant ces fonds à un vrai fonds commun de créances, vous n'avez aucun actif. Vos parts sont vides. Tous les physiciens savent que mettre en contact la matière avec l'antimatière aboutit à l'annihilation de toute matière. Et c'est là que dans quelques années, décennies ou siècles, on va bien rire. Car tous ces fous cinglés qui se croient bien sûr très intelligents vont anéantir le monde monétaire futur dans un gigantesque trou noir où la monnaie va disparaître en une seconde, le jour J, l'heure H, la minute M, la seconde S, où vous direz « Mais je n'ai rien !» Le monde s'évanouira. Adieu vos vaches cochons couvées, les apprentis sorciers auront beau agiter leurs baillettes magiques, plus rien ne fonctionnera, et surtout plus leur magie satanique. La prochaine fois, dans notre numéro 23, nous opérerons une première rétrospective sur le véritable métier de la banque et de l'art bancaire encore pratiqué par l'auteur dans les années 60. Voilà. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, à dans une quinzaine.